Salut à tous et soyez les bienvenus au podcast Fale Francês avec Elisa. Esse é o nosso podcast para você ativar o seu francês. Afinal de contas, o francês já existe dentro de você, mesmo que você ache que está saindo do absoluto zero no idioma. E aqui, nesse podcast, você vai ter acesso a áudio 100% em francês, a material para começar do absoluto zero, como você disse que está começando, mas tudo isso para você falar francês com naturalidade e com confiança. Alors, c'est parti e bora descobrir esse universo da língua francesa. Eu sou Elisa Touchon Fingarmad, franco-brasileira e professora de francês há mais de 15 anos. Alors, on y va, vamos lá! Salut à tous, soyez les bienvenus, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso podcast Fale Francês avec Elisa. Hoje eu vou continuar um pouquinho mais a leitura do início do livro La Valse Lente des Tortues, da autora Catherine Pancol, em francês. Para você treinar a sua escuta, e se você quiser encontrar esse livro, você também pode acompanhar a leitura comigo. A primeira parte, que são as primeiras páginas do livro, você encontra no episódio da semana passada. Então vamos lá! Vamos descobrir o que a Joséphine, nossa personagem principal, tem nessa caixa que ela foi buscar no correio.
Il doit bien exister des moyens pour ignorer cet argent. L'argent supprime l'angoisse des lendemains qui grimacent, mais dès qu'on en amasse, on croule sous les embarras. Où le placer? À quel taux? Qui va s'en occuper? Certainement pas moi, protesta Joséphine en traversant dans un passage piéton et en évitant une moto de justesse. Elle avait demandé à son banquier, M. Faugeron, de le garder sur son compte, de lui en virer une certaine somme chaque mois, une somme qu'elle jugeait suffisante pour vivre, payer les impôts, l'achat d'une nouvelle voiture, les frais de scolarité et le quotidien d'Hortense à Londres. Hortense savait comment utiliser l'argent. Ce n'est pas elle qui aurait eu le tournis devant les relevés de banque. Joséphine s'était fait une raison. Sa fille aînée, à 17 ans et demi, se débrouillait mieux qu'elle, à 43. On était fin novembre et la nuit tombait sur la ville. Un vent vif soufflait, dépouillant les arbres de leurs dernières feuilles, qui tournoyaient en valse rousse jusqu'au sol. Les passants avançaient en regardant leurs pieds de peur de se faire gifler par une bourrasque. Joséphine releva le col de son manteau et consulta sa montre. Elle avait rendez-vous à 7 heures avec Lucas, place de Trocadéro, à la brasserie Le Coq. Elle regarda le paquet. Il n'y avait pas le nom de l'expéditeur. Un envoi de Mylène ou de Monsieur Vouilly? Elle remonta l'avenue Poincaré, atteignit la place du Trocadéro et pénétra dans la brasserie. Elle avait une bonne heure à attendre avant que Lucas la rejoigne. Depuis qu'elle avait déménagé, il se donnait toujours rendez-vous dans cette brasserie. C'était un vœu de Joséphine, une façon pour elle d'apprivoiser son nouveau quartier. Elle aimait créer des habitudes. « Je trouve cet endroit trop bourgeois ou trop touristique », disait Lucas d'une voix sourde. « Il n'a pas d'âme, mais puisque vous y tenez. » C'est toujours dans les yeux qu'on voit si les gens sont tristes ou heureux. Le regard, on ne peut pas le maquiller. Lucas avait les yeux tristes, même quand il souriait. Elle poussa la porte en verre et chercha une table libre. Elle en vit une et s'y installa. Personne ne la regardait et elle se sentit soulagée. Peut-être était-elle en train de devenir une vraie Parisienne. Elle porta la main au chapeau en tricot vert amande qu'elle avait acheté la semaine précédente, songea un instant à l'enlever, puis choisit de le garder. Si elle l'enlevait, elle serait décoiffée et n'oserait pas se repeigner. Cela ne se faisait pas de se coiffer en public. C'était un principe de sa mère. Elle sourit, elle avait beau ne plus voir sa mère, elle la portait toujours en elle. Le chapeau vert amande, assoufflé en laine tricotée, ressemblait à trois pneus joufflus et se terminait par une galette plate en velours côtelé, piquée d'une petite tige en flanelle rêche, comme celle qui termine le classique béret. Elle avait aperçu ce couvre-chef dans la vitrine d'une boutique rue des Frambourgeois, dans le Marais. Elle était entrée, avait demandé le prix, elle avait essayé. Il lui donnait un air fripon de femme désinvolte au nez retroussé. Il ombrait ses yeux marrons d'une lueur dorée, gommait ses joues rondes, allégeait sa silhouette avec ce chapeau. Elle se créait une personnalité. La veille, elle était allée voir le professeur principal de Zoé, Madame Berthier, pour parler de la scolarité de sa fille cadette, de son changement d'établissement, de sa faculté d'adaptation. À la fin de l'entretien, Madame Berthier avait enfilé son manteau et posé sur sa tête le chapeau vert amande à trois soufflets joufflus. « Oh, j'ai le même !» avait dit Joséphine. « Je ne l'ai pas mis parce que je n'osais pas. » « Vous devriez. En plus, il tient chaud et il ne ressemble à rien de ce qu'on voit d'habitude. On le repère de loin. « Vous l'avez acheté rue des Francs-Bourgeois ?»« Oui, dans une toute petite boutique. Moi aussi, quelle coïncidence !» Le fait de partager le même couvre-chef les avait plus rapprochés que leur longue conversation au sujet de Zoé. Elles étaient sorties ensemble du collège et tout en parlant avaient pris la même direction. « Vous venez de Courbevoie, m'a dit Zoé. » J'y ai vécu presque 15 ans. J'aimais bien, même s'il y avait des problèmes. Ici, ce ne sont pas les enfants qui posent problème, ce sont les parents. Joséphine l'avait regardé étonnée. Il croit tout avoir enfanté un génie. Ils croient tous avoir enfanté un génie et nous reprochent de ne pas détecter le Pythagore ou le Chateaubriand qui dort en eux. Ils les abrutissent de leçons particulières, de cours de piano, de tennis, de vacances à l'étranger, dans des collèges huppés, et les gamins épuisés dorment en classe, ou vous répondent comme si vous étiez leur larbin. Vraiment ? Et quand vous tentez de rappeler aux parents que ce ne sont encore que des enfants, ils vous prennent de haut et vous affirment que les autres, peut-être, mais le leur sûrement pas. Mozart avait 7 ans lorsqu'il écrivit sa petite musique de nuit. Une ritournelle assommante entre nous, et leur progéniture, c'est du Mozart. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu une prise de bec avec un père, un banquier bardé de diplômes et de décorations, qui se plaignait que son fils n'ait que 14 de moyenne. Tiens, il est dans le même groupe que Zoé. Je lui ai fait remarquer que c'était déjà bien. Il m'a regardé comme si je l'avais insulté. Son fils, la chair de sa chair, seulement 14 de moyenne. J'ai senti le napalm dans son haleine. Vous savez, c'est dangereux d'être prof aujourd'hui. Et ce n'est pas tant les enfants que je redoute, que les parents. Elle avait éclaté de rire en donnant une claque sur son chapeau afin que le vent ne l'emporte pas. Arrivée devant l'immeuble de Joséphine, elles avaient dû se séparer. « J'habite un peu plus loin, » avait dit Madame Berthier, en montrant une rue sur la gauche. « Je veillerai sur Zoé, promis. » Elle avait fait quelques pas, puis s'était retournée. « Et demain, mettez votre chapeau, comme ça on se reconnaîtra même de loin. On ne peut pas le manquer. »« C'est sûr, » pensa Joséphine. Il se dressait tel un cobra en dehors de son panier. Elle s'attendait à ce que le son d'une flûte résonne et qu'il se mette à onduler. Elle avait ri, avait fait signe que promis, elle sortirait avec son bibi à souffler dès le lendemain. Elle verrait bien si Lucas l'apprécierait. Ils se voyaient régulièrement depuis un an et se vouvoyaient toujours. 2 mois auparavant, à la rentrée de septembre, ils avaient essayé de se tutoyer, mais c'était trop tard. C'était comme s'ils avaient introduit 2 inconnus dans leur intimité, 2 personnes qui se disaient « tu » et qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient repris le vouvoiement qui, s'ils surprenaient, leur convenait tout à fait. Leur manière de vivre à deux leur convenait aussi, chacun chez soi, une indépendance pointilleuse. Lucas écrivait un ouvrage d'érudition pour un éditeur universitaire, une histoire des larmes du Moyen-Âge à nos jours. Il passait la plupart de son temps en bibliothèque. À 39 ans, il vivait comme un étudiant, habitait un studio à Asnières. Une bouteille de coca et un morceau de pâté se morfondaient dans son frigo. Il ne possédait ni voiture ni télévision et portait, quel que soit le temps, un duffle coat bleu marine qui lui servait de seconde maison. Il transportait dans ses larges poches tout ce dont il avait besoin dans la journée. Il avait un frère jumeau, Vittorio, qui le tourmentait. Joséphine n'avait qu'à observer la ride entre ses yeux pour savoir si les nouvelles du frère étaient bonnes ou mauvaises. Quand le sillon se creusait, L'orage s'annonçait. Elle ne posait pas de questions. Ces jours-là, Lucas restait muet et sombre. Il prenait sa main, la plaçait dans sa poche de Dufeu-Colt, avec les clés, les stylos, les carnets, les bonbons pour la gorge, les tickets de métro, le portable, les paquets de Kleenex, le portefeuille en vieux cuir rouge. Elle avait appris à reconnaître chaque objet du bout des doigts. Elle parvenait même à identifier la marque des sachets de bonbons. Il se voyait le soir, quand Zoé dormait chez une amie, ou en fin de semaine, quand elle partait rejoindre son cousin Alexandre à Londres. Un vendredi sur deux, Joséphine conduisait Zoé à la gare du Nord. Philippe et Alexandre, son fils, venaient la chercher à Saint-Pancras. Philippe avait offert à Zoé un abonnement sur l'Eurostar et Zoé partait, impatiente, de retrouver sa chambre dans l'appartement de son oncle à Notting Hill. Et voilà, nous allons terminer par ici. Vamos terminar por aqui. Espero que você esteja gostando. E, aliás, se você estiver gostando, não deixa de me contar, porque assim a gente continua mais leituras de livros por aqui. Se você achou difícil, desafiador, não se preocupe. É para você ouvir várias vezes o nosso podcast. Merci beaucoup et à bientôt!